الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc, le cours dernier, on n'avait pas fini d'expliquer le huitième hadith du livre s'intitulant Ta'sis al-Ahkam, les Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Et qui est le hadith de Humran Mawla Uthman sur la description de l'eau faite par Uthman, cette description qui a été faite bil fi'l ou bil af'al, c'est-à-dire par les actes, et que nous rapporte Humran par la description orale. On s'est arrêté à la huitième question, la huitième, où le shir il dit, donc on est bien entendu dans la partie de fiqh al-hadith, la jurisprudence du hadith, ce qu'on extrait comme règle et comme compréhension à partir de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus précisément ici, la description de l'odo du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit le shir donc sur la question al-thamina, al-mas'alatu al-thamina, la huitième, il dit يؤخذ من العطف بثم المقتضية للترتيب المقتضية للترتيب وجوب الترتيب لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب غير أنه يعضد هذا المأخذ بأمور أحدها حديث ابدأوا بما بدأ الله به على رواية الأمر ثانيا إدخال ممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان ثالثا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتبا أو مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ذكره في المغني ولم يغزه وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا اللفظ إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية باللفظ توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وطرقه كلها واهية ومع ذلك فليس فيه دليل على الترتيب. Donc ici, il va nous parler de la question du at-tartib. De faire donc l'eau comme cela est venu dans la description, suivant l'ordre qui a été fait, en commençant comme dans le verset du Coran Tayyib et comme dans les hadiths qui sont venus mettre en évidence l'obo du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici donc la question, est-ce que le tartib, l'ordre des membres qui sont compris dans l'obo, est-ce que cet ordre-là est obligatoire ou alors il est préférable? C'est-à-dire que si on ne commence pas par cet ordre-là, on commencerait par exemple par la tête, à titre d'exemple, ou alors par les pieds, etc. Mais que le principal, on ferait l'obo de tous les membres qui sont cités dans le verset et qui sont mubayyin, c'est-à-dire qui sont détaillés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre obo, il serait bon, il serait accepté. Donc c'est la question. Par contre, si on dit que le tartib, il est obligatoire, alors, c'est une obligation de faire l'odo en respectant l'ordre comme il est venu. En respectant l'ordre comme il est venu. Et donc ici, le shir il va nous dire que on va d'abord, bien entendu, chercher les preuves dans le hadith. Parmi les preuves qui sont présentes, c'est un terme qui va relier à chaque fois l'acte qui est fait dans le hadith. D'accord ? Et c'est هذا العطف qui est donc l'annexion entre les différentes phases de l'odo. Donc cette annexion là bithumma. Thumma. D'accord ? Donc thumma, qu'est-ce qu'on profite du terme thumma ici ? C'est-à-dire ensuite. On traduit par ensuite thumma, ensuite. Elle implique thumma implique at-tartib. At-tartib. Ça c'est sûr. Ça implique le tartib, ça implique l'ordre. Mais est-ce que ça implique l'obligation du tartib ? Yani wujub at-tartib. Il nous dit le cheikh, cela va l'impliquer auprès de ceux qui voient, donc des savants qui voient, que les actes, ils impliquent les actes mêmes, les actes, lorsqu'ils sont faits, ils impliquent à la base l'obligation. D'accord ? Donc des savants voient que l'acte même, lorsqu'il est fait, il implique l'obligation. C'est-à-dire l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il implique l'obligation lorsqu'il est fait. Taïb. Il nous dit, ça c'est auprès de ces gens-là, de cette catégorie de gens de science, qui voient donc que l'obligation, ou que les actes, ils impliquent l'obligation. Donc ceux qui voient cela, ils voient donc, ici à plus forte raison, que thumma, lorsque c'est utilisé, thumma, c'est donc, ça implique l'obligation du tartib. Et il nous dit, il va ensuite citer le shir, donc par rapport à ce qui était dit, par rapport à l'obligation, il y a également d'autres preuves sur lesquelles on peut s'appuyer, ou des arguments sur lesquels on peut s'appuyer, sachant bien entendu qu'il y a une divergence chez les savants entre eux ou sur cette question. Il nous dit la première, c'est le hadith qui est le suivant, « Ebda'u bima bada'ullahu bi », c'est-à-dire commencer par ce qu'Allah Azzawajal il a commencé. Commencer par ce qu'Allah Azzawajal il a commencé. Ala riwayatil amr. Donc ibda'u ici, ibda'u, le fi'l, le verbe il est à la forme impérative. Al amr. Et donc à la forme impérative, yaqtadi al wujub, c'est-à-dire ça implique l'obligation, comme c'est connu fil usul. Tayyib. Donc dans le hadith, ibda'u bima bada'a Allahu bihi. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est itral ou mamsouh wa waras. Itral ou mamsouh wa waras bena marsoulain. C'est-à-dire que, comme il est dans le verset, et comme il est venu également dans la description de l'odo du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il se trouve entre les membres qui sont lavés, un membre qui est lui, sur lequel on applique donc al-mas'h. Et qui est bien entendu la tête, comme on l'a vu auparavant, la tête, qui est le mamsouh, el-mamsouh. Donc l'acte où on passe, simplement on passe, on masse avec nos mains l'eau. D'accord ? Donc, il a une position dans la phase, ou dans les phases de l'odo, de l'acte, concernant l'acte, bien entendu, ou les actes. Et il se trouve donc entre deux choses qui sont lavées. C'est-à-dire qu'on le fait après qu'on ait lavé les deux mains et avant qu'on ait lavé les deux pieds. Donc ça prouve qu'il a bien été cité à un moment précis, ce qui renforce comme argument qu'il y a ici un tartib. C'est-à-dire qu'on doit se faire donc ce mamsouh, c'est-à-dire donc ce membre qui doit être frotté ou alors massé par l'eau, on le fait entre deux membres qui sont eux lavés. Ça, c'est également un argument qui prouve qu'il a une place et que cette place-là, elle est bien entre deux membres qui sont lavés. Et ici, yani, on sent qu'il y a comme une hikmah, comme une sagesse. Ensuite, le troisième argument par rapport à ce qui est cité, c'est le hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est lavé, ou il a fait l'odo plus précisément, et il a fait l'odo en le faisant suivant l'ordre qu'on a vu dans le hadith al-bab, et suivant donc le verset du Coran. Et il a dit cette parole ensuite, هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. C'est-à-dire cet odo, Allah Azza wa Jal n'accepte pas la prière sauf avec, c'est-à-dire avec son accomplissement, et bien entendu comme je l'ai fait. هذا وضوء Après qu'il ait fait l'odo, il a dit Hada odoun, cet odo, la yaqbalullahu salata illa bi. Cet odo, entre parenthèses, que j'ai fait, Allah Azzawajal n'accepte pas la prière sauf avec son accomplissement, à l'odo, à l'ablution. Donc, ça pourrait être une preuve qui est ici très forte, un argument qui pourrait être très fort. Car vu que le prophète sallam l'a fait avec le tartib dans ce hadith et qu'il a dit qu'il n'est pas accepté, l'odo ou la prière n'est pas acceptée qu'avec cet odo-là, ce serait un argument qui serait très très fort. Seulement, il nous dit le shir, Zakarau fil Mourni, donc Ibn Qudama, il l'a rapporté dans son livre El Mourni, et il n'a pas donné ou il n'a pas rappelé qui a cité ce hadith, ou qui kharrajahu. C'est-à-dire, il se trouve où ce hadith qui l'a rapporté dans les livres de Sunna. Et il dit, et j'ai cherché, le shir donc il dit, shir Najmi, j'ai cherché ce hadith, et je ne l'ai pas trouvé avec ce lafz. Je n'ai pas trouvé avec donc cette parole précise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sauf que ce hadith-là, il a été rapporté par Zaylari. Zaylari, qui est un des savants du madhab al-Hanafi, et qui l'a rapporté dans un hadith, ou parfois dans son livre, qui est un livre de Tahrij, yani qui rapporte et qui montre donc les sources de tous les hadiths concernant l'Ahkam, et qui est un livre connu qui s'appelle Nasbur Raya. Et lui, il l'a rapporté, Az-Zaylari dans son livre Nasbur Raya, il l'a rapporté avec Al-Lafz, donc avec la version Tawadda'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marratan, wa qala hadha wudu'un. Donc, il l'a retrouvé avec la même version qu'on a vue auparavant. Donc, la parole du prophète, Hada wudu'un, Hada wudu'un, la yaqbalullahu salata illa bih. Donc, cet odo-là, Allah Azzawajal n'accepte pas la prière sauf avec son accomplissement. Il dit sauf que, wa turuquhu kulluha wahia. Donc, toutes les chaînes de transmission qui ont été citées, wahia, c'est-à-dire donc, on pourrait le traduire par elles n'ont pas de valeur, elles ne sont pas authentiques, elles n'ont aucune valeur, elles sont très très faibles. Et il dit, et malgré cela, wa ma'a dhalik, falaysa fi dalilun ala at-tartib. Il dit, il n'y a pas une preuve, on va dire, quand il dit il n'y a pas une preuve, il y a une preuve explicite concernant le tartib, concernant donc le tartib, concernant l'ordre. Donc voilà ce que nous rapporte le shir. Donc on sent que le shir, ici, avec ce qu'il a rapporté, il nous montre qu'il n'y a pas une preuve qui est, on va dire ici, très très claire, explicite, comme quoi l'ordre, il est obligatoire. Il y a des arguments, certes, et c'est ce qu'on ressent donc de la parole du shir. Mais il faut savoir que, parmi les savants qui ont vu que le tartib, il est obligatoire, c'est ceux qui ont vu également comme argument, et parmi eux, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimallah, qu'ils ont vu que l'odo, c'est un tout. L'ablution, c'est un tout. D'accord ? Donc, qui est composé d'actes qui sont faits sur les membres. Donc, c'est un tout. Et vu que c'est un tout, on doit le prendre comme tel, comme un tout. Une adoration qui représente un tout. Et donc, lorsqu'on dit dans ce tout-là, il y a l'ordre. Donc également, c'est une des argumentations de ceux qui voient que le tartib, c'est une obligation. Que ça fait même partie de l'arkan. Ça fait partie même des piliers. On est obligé de le faire. Si on ne fait pas le tartib, alors l'odo n'est pas accepté. Donc ici, le shir il a souligné la divergence et il a montré les arguments de ceux qui voient que c'est le tartib, il est donc obligatoire, on est obligé de le faire. Ensuite, il passe à l'avant-dernière question, Ta'asira, qui est la 9e, et il dit Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, thumma salla rak'atayn, la yuhadithu fihima nafsahu, an yuradu bi al-khusus, ay bi umuri al-dunya, wal muradu mujaratu al-hadith, amma in عرض له فدفع عن نفسه فقد حصلت له الفضيلة وإن حدث نفسه بطاعة أخرى فهو من تداخل العبادتين فهو من تداخل العبادتين ويذكر فيه شيء عن عمر. طيب donc ici on a vu donc dans le hadith qu'on a étudié que celui qui a fait cet wudu et qu'ensuite il va pour prier deux raka'a et qu'il durant ces deux raka'a car la yuhadithu fihima fihima al-damir ya'ud ila raka'atayn, donc les deux unités de prière, donc durant ces deux unités de prière la yuhadith fihima nafsahu, donc il ne parle pas lui-même, on pourrait le traduire comme ça, il ne parle pas lui-même. On va voir en détail, on va rappeler certaines paroles des savants, car c'est important de connaître ce qui est voulu ici et comment l'interpréter le plus convenablement possible. Donc on va revoir les paroles des savants sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que ça vient dans ce hadith, mais ça vient également dans d'autres hadiths. Donc on voit souvent, Yanni, la question du tahdith, tahdith nafs durant l'adoration, fi athna al-ibada. Donc c'est pour ça que c'est bien de développer un peu plus sur l'explication du sens de ce terme ou de cette phrase employée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le shir, d'abord, il nous dit, c'est quelque chose qui est général. Le fait de se parler dans son fort intérieur, de se parler en soi-même, de se parler dans son fort intérieur, par son esprit, c'est quelque chose qui est général. Lakin, dans le hadith, il y aura d'oublier le khusus. On veut quelque chose qui est plus précis. Même si la parole, elle est générale, elle comporte, ou elle peut englober ce qui est général, mais malgré ce qu'elle apporte comme signification en général, il est voulu ici al-khusus, ce qui est plus particulier en réalité. Et qu'est-ce qui est particulier? C'est bi-umur ad-dunya, c'est-à-dire les choses qui sont de la dunya. C'est-à-dire qu'on parle à soi-même, on pense à des choses, et comme si une conversation intérieure s'engageait en nous-mêmes, comme on le fait bien souvent, se parler en soi-même, réfléchir, etc., sur des choses de la dunya. Et donc, ce qui est voulu ici, c'est lorsque la personne de elle-même, elle veut parler, d'accord ? Par contre, si, comme ça arrive à tout le monde, une idée vient en soi-même, ou une pensée vient, elle traverse l'esprit, et qu'ensuite, on s'en écarte, yani la nastarsil, c'est-à-dire qu'on continue pas à y penser, mais on écarte de son esprit cette pensée-là. Alors il dit le shir, faqad hasalat lahu al-fadila. C'est-à-dire al-fadila dans le hadith. C'est-à-dire qu'il va recevoir en réalité la récompense. Et la récompense, on l'a vu, laquelle c'est pas les moindres. Allah Azza wa Jal, il va lui rufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est-à-dire qu'il va lui pardonner tous les péchés qui sont passés, qu'il a fait dans le passé. Ma taqaddama min dhanbi, comme on a déjà expliqué. Et bien entendu, on va voir ici, dans ce hadith, que al-murad, c'est as-sara'ir, c'est les petits péchés, pas les grands péchés. Car les grands péchés, comme il est venu, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs cours, il est venu donc des nusus, des textes, qui nous prouvent que pour les grands péchés, il faut une tawbah. Pour les grands péchés, il faut quoi? Il faut une tawbah, donc un repentir. Tayyib. Donc ici, ça concerne as-sara'ir, les petits péchés. On revient donc la yuhadithu fihima nafsahu. Donc ici, cette parole-là, si la personne, elle repousse la pensée qui lui vient et que donc elle continue pas à la développer, alors il aura al-fadila, c'est-à-dire donc il aura l'ajr, la récompense de cela, et qui est al-ghufran. Ensuite, l'expiation. Et ensuite, par contre, s'il pense à une autre adoration durant cette prière-là, alors il dit, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait deux adorations qui se sont entremêlées. Donc, également, il n'y a pas de mal si ça concerne une autre adoration. C'est ce que nous rapporte donc le chien. Pour revenir également à ce qui était cité sur, ce, sur cette parole, on rapporte la parole de Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah. Il nous dit donc Inna hadith al-nafs ala qismain. C'est-à-dire donc la pensée qu'on peut avoir et lorsqu'on se parle à soi-même, Taïb, il dit c'est de deux catégories. Ahaduhuma ma yahjumu hajman yata'adharu daf'u an al-nafs. Il dit la première partie, c'est ce qui vient avec force. Ici donc le terme yani hajman, hujum, al-hajm, al-hujum, c'est quelque chose qui est fort, qui vient avec force. Comme quand on pourrait dire hujum al-adu, comme lorsque l'ennemi il attaque avec force. Ça, ça traduit bien le terme hujum, hajm, d'où le verbe yani ici, yahjum. Donc il nous dit si ça, ça vient avec force et qu'on ne peut pas, on n'a pas la force et on ne peut pas le rejeter, natfa'u, taïb, ça c'est la première catégorie. Ça c'est la première catégorie. Ensuite la deuxième catégorie, wathani, ma tastarsilu ma'u an-nafs, wa yumkinu qat'uhu wa daf'uhu. Fa yumkin an yuhmal al-hadith. الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج الأول لعسر اعتباري ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبا منه وتفاعلا تفاعلا لهذا الحديث. Il nous dit la deuxième catégorie, c'est en vérité ce qui vient à notre esprit et qu'on continue nous à y penser, yani qu'on avait la capacité de le repousser cette pensée, mais nastarsil, c'est-à-dire qu'on continue à développer cette pensée qui nous vient, cette conversation intérieure, si on peut l'appeler ainsi, qui nous vient, et qu'on la natfa'u, la naqta'u, qu'on ne coupe pas court à cela. Taïb. Donc il nous dit, on va dire que le hadith ici, il porte sur la deuxième catégorie, sur ce qu'on pouvait donc repousser, et dont on ne l'a pas fait. Et à partir de là, bien entendu, si on fait cela, on ne va pas avoir le hajar de Al-Ghufran, de l'expiation des péchés. Et il nous dit, la première catégorie, elle sort, celui qui est venu avec force et dont on n'a pas pu le repousser. Taïb. Pourquoi ? Parce qu'il dit, pour les usr et irtibari, c'est-à-dire ce qui est pris en compte ici, c'est la dureté. La dureté donc de ce hujum, de cette attaque donc, si on pourrait dire ainsi. Pour bien comprendre, yani, ce terme. Il nous dit le terme même dans le hadith, yuhadithu nafsahu, ou certaines versions, yuhadithu nafsahu, c'est-à-dire il parle à lui-même, ça prouve bien et ça implique qu'il y a ici un takassuban minhu, tafa'ulan, c'est-à-dire que la personne, elle continue donc à penser, lorsque la pensée lui vient, elle continue à parler en soi-même, etc. Y avoir une réflexion qui est en dehors donc de son adoration. Et il nous dit également qu'on peut de même, yani nahmil ou yuhmal al hadith, c'est-à-dire qu'on peut également ce hadith le comprendre suivant les deux catégories, ce qui serait bien entendu plus dur. Et va nous dire ici, donc ça c'est la parole de l'imam Shawkani, wal hasil anna sirata mush'iratun bi shay'an, c'est-à-dire donc l'exposition de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on retrouve dans cette phrase là, elle nous donne donc l'impression de deux choses. La première chose, donc bishay'ain, ahadihima, an yakuna ghayra maghrubin birud al khawatir al nafsiya. C'est-à-dire que la personne, celui donc qui a des pensées qui lui viennent, et qui n'est pas maghroub dans ces pensées-là. C'est-à-dire donc, ces pensées-là, elles ne prennent pas le dessus sur lui. Donc il serait dans ce moment-là dans l'incapacité de les rejeter, comme nous l'a rappelé Ibn Daqiq dans la première catégorie. Taïb. لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يُقَلَّوْ مُحَدِّثْ لِإِنْتِفَاءِ الْإِخْتِيَارِ الَّذِي لَبُدَّ مِنْ إِعْتِبَارِ. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne qui est dans ce cas, وَمَغْرُوب عَلَى أَمْرِ. Il est maghroub, c'est-à-dire donc, la pensée elle a eu le dessus sur lui. On ne peut pas l'appeler cette personne-là muhaddith, c'est-à-dire c'est une personne qui parle à lui-même. يَتَفَاعَلْ. On ne peut pas dire ainsi. Donc c'est pour ça que on exclut cette catégorie. Lorsque la personne est maghroub, comme nous l'a rappelé Ibn Daqiq al-Aïd dans la première catégorie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il nous dit la deuxième, أن يكون مريدا للتحديث طالبا له على وجه التكلف ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لا يقال إنه حدث نفسه. Donc ça confirme bien ici ce qui a été dit, c'est-à-dire donc que la personne, c'est lorsqu'elle est considérée comme muhaddith, c'est-à-dire qu'elle-même elle parle à elle-même, elle est dans son fort intérieur, qu'une conversation intérieure s'engage ou alors qu'elle vague dans ses pensées. Donc à ce moment-là, c'est ce qui est pris en considération. Taïeb. Par contre, si la personne, elle est maghroub, comme on a dit, et si le hujoum, l'attaque, elle vient avec force, et qu'il ne peut donc, à ce moment-là, la repousser, à cet instant-là, il ne peut la repousser, alors on ne dit pas à cette personne-là qu'il est muhaddith, ou on emploie le terme ici, tahdith. Donc ça ne rentre pas dans le hadith. Pourquoi ? Parce que en même temps, l'intifa l'ikhtiar, c'est-à-dire ici que la volonté, elle est éloignée, hors de sa volonté. Donc voilà, pour comprendre cette parole, et cette parole qui revient souvent dans plusieurs hadiths. Ça nous donne donc ici un tafsil qui est, inshallah, complet. Ensuite, la dernière question, on en a déjà parlé, c'est-à-dire donc, « Rufila lauma taqaddama min dhanbi, hadha ammun yuradu bil khusus bis sagair » لأن الكبائر لا تكفر إلا التوبة. Donc comme on a vu, comme on a dit, le sens ici de l'expiation, c'est pour les petits péchés. Ensuite, on va maintenant venir au 9e hadith qui vient compléter donc le 8e et qui est le suivant. يقول المؤلف رحمه الله عن عمر ابن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر ابن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطست متفق عليه. Donc ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. Et ce hadith donc il vient compléter ce qu'on a vu concernant la description de l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le hadith connu comme étant le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Et donc, qui a également, lui, donné la description de l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a également, lui, demandé de même un récipient. Ici, le terme taur, comme il est expliqué lui-même par le Sahib al-Kitab, il nous dit shibut tast, donc c'est une cuvette. Taïb, c'est une cuvette. Taur, le terme taur, qui est venu dans le hadith, marna, la cuvette. Et qui est traduit également en arabe par at-tast. At-ta, was-sin, wat-ta. At-ta, as-sin, wat-ta. Comme dans le livre. Taïb. Donc tout ça, ça veut dire at-taur. Et on pourrait le traduire également par al-ina, le récipient, qui est encore plus général. Donc, il a demandé ce récipient, et ensuite il a fait l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a versé également l'eau sur ses mains, qu'il les a lavées donc trois fois, et ensuite il a rentré sa main dans le récipient. Il a fait le mamnada, l'istinshaq, trois fois, avec trois gharfat, Arafat, naam, comme on l'a expliqué. Ensuite, il a rentré une autre fois sa main et il a lavé Wajahu, sa figure, trois fois. Et on a vu ce qui était compris dans le visage, ça on l'a expliqué auparavant dans le hadith, et également la barbe, Tayyib. Et on a expliqué ensuite, bon ça on l'a expliqué après dans les questions, donc on le redit ici, c'est-à-dire que ce qui rentre également donc dans Al-Wajh, c'est la barbe. La barbe, les savants, certains ont dit que la barbe, il fallait obligatoirement faire le tahlil. Le tahlil. C'est-à-dire donc on devait passer l'eau à l'intérieur de la barbe, de manière générale, qu'elle soit touffue ou pas. Et ils ont pris comme preuve un hadith où il est cité le tahlil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lilihyati. C'est-à-dire donc le fait de passer les mains à l'intérieur de la barbe, bien entendu les mains qui ont été imbibées à la base donc d'eau, vu qu'il lave de toute manière sa figure. Et dans certaines versions, il a été cité al-tahlil, une parole qui implique l'obligation. Ça, c'est une chose. Et on a vu ceux qui ont fait la divergence, ou arfouan, qui ont fait la différence entre l'odo et al-rusl. Et parmi eux, l'imam Abu Hanifa, qui voit que lorsqu'on fait la grande ablution, al-rusl, alors on doit obligatoirement faire le tahlil de la lahya. Le tahlil de la lahya. Par contre, durant l'odo, non, ce n'est pas une obligation. Ensuite, le deuxième point, c'est la différence donc entre la barbe qui est touffue et celle qui n'est pas touffue, qui est légère et dont on voit apparaître la couleur de la peau. Et donc les savants, ils ont dit, pour ceux que on voit apparaître la couleur de la peau, donc une barbe très légère, celui-là, il doit frotter également et faire passer l'eau à l'intérieur. Par contre, celui qui a une barbe qui est touffue, alors celui-là, il passe donc uniquement l'eau au-dessus de sa barbe, comme s'il fait donc le masah avec ses mains de la barbe jusqu'où elle descend la barbe, taïb, sans rentrer donc à l'intérieur avec ses doigts, donc en faisant en fait ici le tahlil. En faisant ici le tahlil. Et ça, c'est une parole de beaucoup de savants. D'accord ? Donc la différence entre la barbe qui est légère et celle qui est touffue. Donc ici, c'est bien le wajh. Taïb. Thumma atkhala yadahu fi at-tawr. Donc il a encore une autre fois rentré donc sa main dans l'eau pour reprendre donc de l'eau. Faghassalahuma marratan ila al-mirfaqain. Et il les a lavés donc. Ses mains donc, ses mains, il les a lavés jusqu'au mirfaq. Ou al-mirfaqain, qui est donc le coude. Et on a vu que le coude y rentrait dedans. Thumma adkhala yadahu fi at-tawr. Encore une autre fois, il rentre sa main dans le récipient. Famasaha ra'sahu. Et ensuite, il a massé donc sa tête, comme on l'a vu et on l'a expliqué. Faqbala bihima wa adbara marratan wahida. Donc il est parti de l'avant jusqu'à l'arrière, ensuite de l'arrière jusqu'à l'avant. Marratan wahida, c'est-à-dire une seule fois. Thumma ghassala rijlay. Thumma ghassala rijlay. Et ensuite il a lavé ses deux pieds. Ça, c'est la description dans le hadith de Abdullah ibn Zayd. On voit qu'il y a peu de différence avec la description de Othman ibn Affan. On voit également ici qu'il y a une précision qui est donnée quant à al-mas'h lir-ras, comme on masse donc al-ras. Ensuite, il va nous rapporter une autre version, même deux autres versions. Fi riwayatin, donc toujours du même hadith, dans une autre version du hadith, bada'a bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila qafa. C'est-à-dire qu'il a commencé donc. Donc on a vu muqaddam al-ras, on l'avait expliqué. Muqaddam al-ras, donc c'est le début de la tête qui s'arrête donc à la limite avec le front, qui s'arrête avec limite avec le front. D'accord? An-nasiya, comme on a dit également qu'on a expliqué. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Donc il a été ensuite, donc il masse avec ses deux mains. Et donc lorsqu'on dit masser avec ses deux mains, on a expliqué également le cours dernier comment, ou la description de cela, et il va jusqu'à la limite du cou. Et quand on dit la limite du cou, bien entendu, le début du cou. Et ensuite, il revient. Thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Et il revient donc à l'endroit où il a commencé. Ensuite, une deuxième version, ou une troisième version, wa fi riwayatin atana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhrajna lahu ma'an fitorin min soufre. Et ici, c'est également une faïda qui est donnée dans cette version. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu et il a sorti fa'akhrajna lahu ma'an, c'est-à-dire donc qu'on lui a apporté de l'eau dans un récipient min soufre. Soufre, le shir va nous dire ce qu'est soufre dans les mufradat, c'est le seul mot d'ailleurs qu'il va donner dans les mufradat, le vocabulaire, il va nous dire ma'adim ma'ruf, c'est-à-dire donc c'est un récipient qui est, ou c'est enfin une matière de récipient qui est connu et qui est en fait le cuivre, soufre. Donc comme on dit sifr, mais ici c'est soufre bi dhamma, soufre. Et bien entendu, mawdou' al-hadith, c'est sifat al-wudu. Et il nous dit le shir gharfat. Donc gharfat, il nous dit biskan ar-ra. Donc on dit pas gharafat. On dit gharfat. Gharfat avec iskan ar-ra. Il y a une soukoun au-dessus du ar-ra. Gharfat. Gharfat. Jam gharfa. Jam gharfa. Wal gharfatu ma aqallahu al-adami bi kaffihi. Donc c'est ce que contient l'homme dans sa pomme, fi kaffihi. Dans sa pomme des mains. Ensuite, al-ma'na al-ijmali, 'allama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu kayfiyat al-wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ses compagnons comment faire l'wudu. Faghassala kaffayhi qabla an yudkhilahuma fi al-ina 3 marrat. Donc avant qu'il rentre sa main dans le récipient, il l'a lavé 3 fois comme on l'a vu. Thumma tarafa bi yadihi faghassala wajhahu 3. Et ensuite, il a refait cela pour laver cette fois-ci sa figure 3 fois. Wa yadayhi marratan marratan. Ses mains 2 fois. Deux fois. Et ensuite, Wamasahara Saumarraten Wahida. Et ensuite, donc, il a fait le massage de sa tête une seule fois. Istawa'abaobiha. Et il a fait toute sa tête, c'est-à-dire qu'il a pris ici toute sa tête. C'est-à-dire que toute la tête a été massée par les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa'asala Rijlay. Et il a lavé donc ses 2 pieds. Et ici, le shir, il met l'accent. Sur quoi? Sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, et c'est la différence avec le hadith de Othman, également une des différences, c'est que lorsqu'il a lavé ses mains, il les a lavées 2 fois. Donc on a vu, il a fait des choses 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de laver donc sa figure. Taïb, farasala wajjahu 3. Par contre, ses mains jusqu'au mirfaq, c'est-à-dire ses mains. Ici, bien entendu, la première fois, il l'a lavé 3 fois avant de rentrer ses mains dans le récipient, comme on l'a vu. Par contre, après, durant l'eau, lorsqu'il lave ses mains, après le wajh, et qu'il lave ses mains donc jusqu'au mirfaq, comme c'est venu ici l'obligation dans le hadith, alors que le premier, on a vu que ce n'était pas l'obligation, alors à ce moment-là, il l'a fait 2 fois. Et c'est pour ça, donc, à partir de là, que les savants disent que la personne, il lui est possible qu'elle fasse l'eau d'une partie de ses membres 3 fois et l'autre un nombre moindre, par exemple 2 fois ou 1 fois. Taïb. Donc le nombre ici, ce n'est pas une obligation. Dans le sens où, si tu as fait la première partie de tes membres 1 fois, ou le premier membre, tu l'as lavé 1 fois, tu dois tout faire le reste 1 fois. Ou alors si tu l'as lavé 3 fois, tu dois tout faire le reste 3 fois. Tu peux faire 3 fois et ensuite, comme c'est venu ici dans la sunna, laver tes mains 2 fois. Donc ici, le nombre, ce n'est pas une condition pour ce qui est de l'eau d'eau. Et la preuve ici, c'est le hadith de Abdullah ibn Zayd qui nous le prouve de manière claire. C'est pour ça qu'il va dire le shir fiqh al-hadith yukhad minu jawaz ikhtilaf al-adad fi rasalat al-a'dha. Donc comme on l'a dit, et il nous dit jawaz at-tatahhur fi aniyat as-sufr, donc également de se laver dans ce qui est contenu par le cuivre. وسائر فقه قد تقدم في الحديث قبله. Et donc le reste on l'a déjà vu. Naam. Donc on va revenir simplement à ras. Il y avait 2 points où ce qu'on devait détailler par rapport à la tête. Donc on a dit que par rapport à la tête, il est compris dans la tête donc al-udhun, c'est-à-dire donc les oreilles. Car un hadith qui est rapporté par Abu Dawud et d'autres où il y a un irtilaf, comme on l'a dit, sur son authenticité, mais parmi ceux qui l'ont authentifié, Shah Albani, bima jumur turuqi, c'est-à-dire par l'ensemble des chaînes de transmission à partir de ce hadith, qui voit qu'il est yani yuhtad jubi, qu'on peut le prendre donc comme preuve, et qui nous montre que al-udhun, c'est-à-dire donc les oreilles font partie de ar-ras, al-udhun min ar-ras, c'est-à-dire donc les oreilles font partie intégrante de la tête. C'est-à-dire donc quand on dit mas ar-ras, ça veut dire également mas al-udhun, c'est-à-dire donc se laver les oreilles, plutôt se masser les oreilles. Et le deuxième point, c'est que lorsqu'on a des longs cheveux, donc les cheveux, on parle de cheveux ras. Le deuxième point, c'est Naam, c'est ici qu'on le cite, c'est que Al-Malikiya ala khilaf al-Jumur. C'est-à-dire que les Malikites, et ici on sont en contradiction avec la majorité des savants, ils ont dit qu'on devait également faire le masr des cheveux s'ils sont très longs. C'est-à-dire donc, même s'ils sont très longs, on doit les masser jusqu'au bout, jusqu'au bout des cheveux. Taïeb. Et là, l'argument qu'ils ont auprès d'eux, c'est qu'ils ont dit, les cheveux de la tête, on doit les masser, c'est une obligation. Et donc à partir de là, les cheveux, ils ne sont pas limités à ceux qui ont les cheveux courts. Donc celui qui a les cheveux longs, il doit donc passer l'eau dessus jusqu'à la fin de ses cheveux, jusqu'à la limite de ses cheveux. Ça, c'est l'avis des Malikites, mais le Al-Jumhur, ils ont dit non. Ils ont dit on s'arrête où ? On s'arrête donc à ce qui est cité dans le hadith, c'est-à-dire donc à la limite du cou. Et si les cheveux ils sont plus longs que cela, ils n'englobent pas Al-Masah. Donc ici, également, c'est une faïda. Et pour finir donc, pour ce qui est de cette description, et passer au hadith suivant, donc parmi ce qui est cité dans Arkan al-Wudu, comme suit, donc ça titre de récapitulatif. La première chose donc c'est Ghusl al-Wajh, laver la figure. Et il est compris dans la figure al-Madmada wal-Istinshaq, wal-Lihya, la barbe, comme on l'a vu. Ensuite, la deuxième Ghusl al-Yadayn ila al-Mirfaqayn. Donc se laver les mains jusqu'aux coudes, les coudes compris dedans. Ensuite, masḥ ar-ra's ma'a al-udhun. C'est-à-dire donc se laver ou arfwan, se masser avec l'eau, passer, frotter avec l'eau à l'aide de ses mains ar-ra's, la tête, et il est compris dedans al-udhun. C'est-à-dire donc les oreilles. Ensuite, le quatrième, ghasl al-rijlain ma'al ka'bayn. Se laver donc les pieds, et il inclut dans les pieds al-ka'bayn, la cheville. Le cinquième, at-tartib, c'est-à-dire l'ordre. Et ensuite, le sixième, al-muwala. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ? C'est que quand on se lave un membre, on ne va pas faire autre chose pour revenir à se laver le deuxième membre. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait à la suite. Certains ils ont dit, comment on va comprendre al-muwala ou qu'est-ce que va être le tahdid de ça ? Ils ont dit tout simplement, si on laisse le premier membre qu'on a lavé jusqu'à qu'il sèche et qu'ensuite on en vient au deuxième membre. Donc ici, ça c'est un effort, on va dire, d'interprétation, un ishtihad dans cette question. D'autres qu'ils ont dit également, si on fait un autre acte, par exemple je commence à me laver la figure, ensuite quelqu'un il me téléphone, je prends mon portable et je réponds, je commence à parler, je finis, ensuite je continue avec l'autre. Non, j'ai fait un acte entre ceux-là. Donc ici ça va à l'encontre de al-muwala, taïeb, qui rentre donc dans l'arkan. Et ceux qui ont dit bien entendu le mois là, également l'argument ici, c'est comme on l'a dit, cette adoration, l'odo, c'est un tout, taïb. Ala kulli hal, ici c'est à titre, ou c'est pour donner un récapitulatif rapide. Et pour ce qui est ensuite de la question de l'ahya, donc c'est ici une autre faïda que je vais donner. Bien entendu, j'ai dit qu'il y avait des hadiths concernant At-Takhlil, comme le hadith de Uthman, qui est rapporté par Ibn Majah, Al-Tirmidhi et d'autres. où il est dit en Othman, où il est cité en Othman radiyallahu anhu, an an-nabi sallam kana yukhallilu lahyatahu. C'est-à-dire que le prophète sallam, il faisait la tahlil, le tahlil de sa lahya. C'est-à-dire donc qu'il passait, comme on l'a expliqué, ses mains à l'intérieur, comme il frottait donc à l'intérieur de sa barbe. Et d'autres hadiths également qui citent tahlil, comme le hadith de Anas auprès de Abu Daoud. Et donc à partir de cela, comme je l'ai dit, il y a eu un irtilaf des savants. Certains, ils ont dit al wujub fil wudu wal ghusl. C'est-à-dire ici ce qui nous importe surtout c'est le wudu. Et parmi ceux qui ont dit cela, c'est al-Zahiriya comme Abu Thawr, wal Hasan ibn Salih et d'autres. Et d'autres savants qui ont dit que le tahlil, comme l'imam Shafi'i, Al-Awza'i et d'autres, qui ont dit que le tahlil c'est une sunna. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et on a dit ce qui a fait la différence entre Al-Rusl, min al-Janaba, Al-Rusl, min al-Janaba, ou Al-Rusl tout court, et Al-Wudu. Donc ici c'est pour terminer Al-Fawaid sur ces deux hadiths de Al-Bab. Naam, passer les doigts humectés d'eau dans la barbe. Naam. Barakallahu fik. Donc on s'arrête ici et on continuera donc le prochain cours en commençant le 10e hadith.